Cette photographie a été prise le 24 août 1980 par le photographe français Alain Keller, qui avait été envoyé au chantier naval Lénine par la grande agence Sigma, qu'il avait envoyé à ce moment-là pour couvrir les grandes grèves polonaises. Donc Alain Keller se retrouve à Gdańsk et prend cette photographie qui va cristalliser la manière dont l'Ouest va percevoir ces grèves. J'ai essayé d'interroger le sens, pas uniquement religieux, mais également spirituel et politique de ce rassemblement. Ce qui est intéressant aussi dans cette photographie, c'est qu'elle a été prise aux abords de l'entrée de ce portail dit numéro 2, où se passaient les grandes annonces, où Lech Wałęsa parlait à la population de la ville rassemblée pour soutenir les grévistes. Mais à partir de cette photographie, je suis allée chercher d'autres sources photographiques, beaucoup plus, je dirais, modestes, beaucoup moins connues, beaucoup moins célèbres, qui avaient été prises aux frontières de cette immense usine, de cet immense chantier naval. C'est ainsi que nous avons choisi cette photographie de couverture, prise par une photographe, Małgorzata Brudzka, qui avait été employée dans un autre chantier à côté pour photographier des grands bateaux et qui, au moment des grèves, se promenait régulièrement aux frontières, je dirais, de l'usine et photographiait ces moments très particuliers où les familles, les enfants, les femmes venaient voir leur mari, leur père, leur frère pour échanger des nouvelles. Et c'est ces moments un petit peu intimes, d'une autre intimité peut-être que celle de la confession publique, qui m'ont intéressée dans cet ouvrage. Alors l'intérêt de ces photographies moins connues, moins célèbres et qui semblent à première vue plus anodines, c'est aussi d'interroger peut-être davantage l'organisation pratique quotidienne de cette grève. L'intérêt aussi de ce décentrement peut-être de regard, c'est évidemment d'interroger la manière dont les femmes se sont mobilisées dans ce mouvement, le rôle qu'elles ont joué. Mais c'est également d'aller chercher des témoins oculaires, des photographes peut-être moins centraux qui n'ont pas su au moment même exploiter, vendre leurs images, mais qui ont pourtant produit des traces de ces événements. Dans la deuxième partie de cet ouvrage, donc qui s'intitule « Les chaînes de solidarité », je suis allée à la recherche de traces qui montrent d'une part la mobilisation française, et là je suis allée davantage chercher du côté des archives de l'INA, et donc des plateaux télé évidemment, mais aussi des images des différentes manifestations organisées à la fois par les syndicats français, mais également par les différents collectifs et associations françaises. Après la mise en place de l'état de guerre, les caméras sont confisquées. Seules les images produites par la télévision polonaise sont autorisées. Et donc, certains opérateurs se sont emparés de caméras pour essayer de filmer le mouvement tel qu'il s'était reconstitué dans les appartements de manière clandestine. Ces images étaient destinées à circuler à l'ouest pour montrer que Solidarność continue à exister. Et c'est ainsi que l'on voit par exemple ici le visage camouflé de Zbigniew Bujak dans un accoutrement assez exubérant que l'on pourrait juger peu convaincant, mais qui nous montre voilà comment il faut pouvoir mâcher le papier en cas d'intervention de la milice pour cacher des preuves compromettantes. Donc ces images ont aussi un potentiel assez comique finalement par moment, qui surprennent parce qu'elles ne correspondent pas à l'héroïsme, je dirais romantique, tel qu'on l'imagine, pour montrer aussi le côté artisanal finalement de cette résistance et la manière dont progressivement on a trouvé aussi les outils pour continuer à agir politiquement.